On a envie de tourner.
Papa, à quoi tu joues ?
Bonjour, je suis Jean.
Salut, moi c'est Arnaud.
Vous écoutez Papa, à quoi tu joues ? Et j'espère que le mois dernier, vous êtes... Oh non, merde. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Papa à quoi tu joues, le podcast pour les parents et les gens très occupés. C'est le 52e épisode, nous sommes en février et je suis avec Arnaud. Bonjour Arnaud.
Salut Jean, comment vas-tu ?
Ça va moyen, je suis très fatigué, je termine une semaine exténuante, mais voilà, je suis au rendez-vous et voilà, pour passer un bon moment ensemble. Et toi, dis-moi comment tu vas ?
Bah écoute, ça va. J'ai appris hier que mon statut avait enfin changé sur ma résidence et donc ça y est, j'avais ma résidence permanente au Canada. Donc ça y est, ils m'acceptaient parmi eux.
Donc, t'as double nationalité ou...
Non, c'est la résidence permanente.
Non, ouais. Donc, juste, t'as le droit d'habiter là.
C'est ça, c'est t'as le droit de rester. En fait, t'as à peu près tous les droits, sauf le droit de vote, je crois.
D'accord. On va donc passer au jeu du mois. Les jeux du mois, aujourd'hui je vais commencer par vous parler de Last Day of June.
Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que cette soirée-là. Nous étions sur un lac, un peu comme celui-ci, c'était l'automne. Un automne où il faisait beau, mais un peu frais. Une saison qui n'existe que dans un jeu vidéo. Là-bas, on l'appelle... Last Day of June, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ton style graphique, tu me faisais penser un peu à du Van Gogh, mais en plus coloré. Je me souviens très bien de ce que j'ai ressenti à la fin de ce jeu-là, il y a un certain temps, il y a quelques mois. C'était l'été dernier.
Bon, voilà, l'ambiance est posée. Last Day of June, ça raconte l'histoire d'un couple tranquille, sans histoire, presque naïf, dans un monde doux, coloré, presque poétique. Et soudain, en rentrant d'une sortie en amoureux près du lac, c'est le drame. Un ballon surgit sur la route, un petit garçon traverse. Carl, le conducteur, fait une manœuvre désespérée d'esquive et fait finir la voiture dans le bas-côté, occasionnant la mort de June et la paralysie des jambes de Carl. Ce petit couple qui n'avait rien demandé à personne et qui vivait sa petite vie tranquille dans un presque monde de bisounours se retrouve complètement brisé et anéanti. Le temps passe et on retrouve Carl assoupi dans sa chaise roulante qui se réveille en sursaut pendant la nuit. Par la force des choses, il va se retrouver contraint d'aller dans une pièce qu'il avait condamnée, l'atelier de peinture de June. Seulement, les tableaux qui y sont ne semblent pas décidés à rester tranquilles comme de vulgaires peintures et Carl se voit aspiré dans l'une d'elles et se retrouve projeté dans le passé, lors de cette fameuse soirée là où sa vie a été brisée. Mais c'est le point de vue du petit garçon qu'il va adopter et il va donc essayer de faire les bons choix pour que ce maudit ballon ne se retrouve pas sur la route. Mais cela suffira-t-il ? C'est donc au travers des yeux de quatre personnages que l'on va apprendre à connaître que Carl va essayer de changer son passé et sauver son couple. C'est d'une tristesse infinie. C'est un jeu vraiment beau et agréable visuellement, on est plutôt dans une palette de couleurs rappelant That Dragon Cancer, mais avec une pâte genre peinture à l'huile, et donc ça fait qu'on est, enfin c'est encore plus chaleureux. Mais le jeu est une sorte d'ode à la vanité, tout en étant en même temps un formidable cri d'espoir et de vie. Je ne peux décemment pas vous en raconter plus sur cette production touchante car elle ne dure que deux bonnes heures, mais elle fait partie de ces expériences de jeux vidéo qui nous laissent une trace. Certes, on n'est pas non plus en présence de quelque chose qui va nous retourner comme That Dragon Cancer, mais c'est clairement une expérience émotionnelle au cours de laquelle on va pouvoir constater que les premières apparences peuvent cacher des mal-êtres profonds, et que l'amour, ça prend plusieurs formes, et qu'elles sont, elles sont pas toujours agréables à vivre. Ça coûte 19,99€, et bon, perso, je le vois plus à 10 ou 13€, parce qu'il n'y a vraiment aucune rejouabilité, si ce n'est bah, l'aspect de collectionner tous les souvenirs perdus. Mais parce que quand on va se balader, on va avoir des petites icônes de têtes de personnages qui vont correspondre à des souvenirs perdus. Et donc, en fait, c'est des images qui vont nous apprendre un peu plus sur l'histoire de chaque personnage. Donc, des images type vieille photographie. Ça se fait très facilement et... Enfin, même dès la première fois qu'on fait le jeu, on peut réussir à tous les avoir sans problème. Donc c'est développé par Ovosonico et c'est édité par 505 Games, c'est disponible sur Windows et PS4. Quant aux enfants, je pense qu'on peut mettre un tel jeu dans leurs mains, car si la profondeur du propos peut sembler difficile d'accès, le jeu donne toutes les clés pour y accéder. Et ce jeu pourra être un bon matériau pour parler de sentiments, de regrets, d'absence avec son enfant à partir de 8 ou 9 ans, je pense. Mais j'hésite encore un peu parce que peut-être plus jeune ça passe. En fait, ça va dépendre de l'enfant et de la facilité que vous avez à parler de ces sujets-là avec. Mais voilà, je pense que ça peut être un bon matériau pour parler de ça. Une expérience unique en tout cas. Si vous avez une soirée à passer en tête à tête avec votre écran, surtout, il ne faut pas se priver. Voilà, mais c'est triste, hein, je vous le dis, enfin je vous le redis, je suppose que tu as été regarder un petit peu les visuels, Arnaud.
J'ai ton lien, ouais. Là, avec la vidéo YouTube, et, et c'est vrai que la palette des couleurs est chaleureuse.
Chatoyante. Ouais.
Elle est chaleureuse, je pense que c'est vraiment le terme, elle est vraiment agréable. Mm-hmm. Bon, après, oui, tu sens qu'il y a une certaine mélancolie aussi dans tout ça.
Mais c'est... c'est le mot que j'ai cherché pendant tout le temps que j'ai écrit ma chronique, et pas moyen de retrouver ce foutu mot. Oui, mélancolie, oui, ce jeu aurait pu s'appeler Mélancolia. C'est clairement pas un jeu qu'on fait pour se remonter le moral, en tout cas.
Alors vous avez un vrai problème.
je suis très frustré. Là c'était très court. Je suis très frustré de pas pouvoir plus en parler. Mais voilà, c'est un jeu qui fait que 2 heures. Je vais vous raconter l'histoire, ce qui se passe.
Après, la question, c'est plus au niveau donc du jeu en lui-même. Donc là, il y a l'histoire. On voit qu'on peut dans la vidéo, je vois qu'on peut balader le bonhomme. Mais après, c'est quoi ? C'est plus tu interagis avec les.
Oui, c'est ça. Tu marches dans ton environnement. Voilà. Ton environnement, c'est un minuscule village qui fait 4 ou 5 maisons. Donc c'est un bout de village, et du coup tu vas c'est des sortes de mini énigmes, ramasser un truc pour le mettre là, ça va empêcher tel truc de faire ci, ça va ou alors du coup il va y avoir un coup de vent et ça va permettre à tel machin de s'envoler, libérant, enfin tu vois, c'est une sorte de réaction en chaîne. Si vous avez vu le film L'effet papillon, c'est franchement de la même veine. Sauf que c'est pas du tout le même décorum, mais ça peut potentiellement être aussi violent émotionnellement que l'effet papillon.
Ok.
Je sais pas si tu l'as vu ce film, toi.
Je l'ai vu, mais il y a un moment, je me rappelle l'avoir apprécié, mais je me rappelle plus de l'histoire.
Enfin voilà, moi
je me rappelle d'un très bon film, mais je me rappelle plus des détails. Je l'ai vu il y a trop longtemps.
Voilà, moi je
l'ai vu il y a peut-être 10 ans, 18 ans.
Ouais, moi j'ai eu le même type de sentiment, tu vois, quand des fois il se réveillait sur une nouvelle séquence et qu'il se rendait compte de que ce qu'il avait fait avant, ça a eu telle conséquence, machin. Et je me suis pris le même type de sentiment quand arrivé dans l'histoire, t'arrives à tel moment et puis tu et puis enfin voilà. C'est plus profond que ça n'y paraît et c'est franchement ça vaut franchement le coup.
Ok.
Voilà. Arnaud, vas-y. Alors, parle-nous de Skyrim.
Très récent. Hein, très récent, c'est ça. Alors, pourquoi Skyrim ? Parce que, en fait, je suis en train d'y jouer en ce moment et j'y prends du plaisir, vraiment. Alors, Skyrim, moi, de mon côté, j'y ai joué donc, déjà 3 ans après sa sortie. Donc, ça date, mais parce que j'avais pas le PC qui allait. Jouer à Skyrim. Donc déjà, il a fallu que j'attende de pouvoir acheter un ordinateur digne de ce nom avec une carte graphique digne de ce nom. Donc j'avais commencé ça sur PC. Et puis finalement, voilà, j'y ai joué et puis par la force des choses, je m'en étais éloigné sans bien le finir, sans bien avancer dans le jeu, pris par d'autres choses. Et là, j'ai donc acheté pour Noël un nouvel ordinateur. Et puis voilà, j'installe Steam, il y a toujours Skyrim dessus. Donc je lance Skyrim, je lance Elder Scrolls Online, je vois que ça fonctionne, je fais ok, c'est bien. Puis là, sur Skyrim, je fais attends, il est quand même bien ce jeu, etc. C'est dommage que je puisse pas y passer le temps. Puis là, l'ordinateur, ça va pas trop le faire, c'est pas vraiment, on l'a pas pris spécialement pour jouer dessus. Donc bon, je le mets de côté. Puis là, c'est Noël, je regarde les promotions sur le PlayStation Network et qu'est-ce que je vois, Skyrim, tout compris, toutes les extensions, ce que j'ai pu comprendre, enfin l'édition complète, et puis ça pour 20$. Et là, j'ai fait. Il m'appelle. Donc, du coup, voilà, qu'est-ce que je peux faire d'autre?
Du coup, t'as répondu.
C'est ça, de répondre, de le prendre et puis de le reprendre en main, de recommencer à zéro. De toute façon, je me rappelais plus du tout de ce que j'avais fait avant. Donc, ça tombait bien. Et me voilà donc dans Bord de Ciel, en train de créer mon bonhomme. Et donc voilà, donc Skyrim, forcément un jeu qui est connu par, je pense, tous nos auditeurs. Maintenant, est-ce que la plupart de nos auditeurs y ont joué ?
Ils ont joué.
On peut pas le savoir. Tout ça pour dire que Skyrim, après avoir joué à finalement The Witcher 3, à Event Horizon Zero Dawn. Ah non, c'est quoi ? C'est même pas ça. C'est Horizon Zero Dawn.
Oui.
Je sais pas pourquoi je fais Horizon à chaque fois.
Non, mais parce qu'il y a un jeu qui s'appelle Event Zero et il y a Horizon
c'est
Zero
ça,
Dawn.
C'est ça, j'ai tout mélangé ensemble. Donc Horizon Zero Dawn. Eh bien, on pourrait se dire que il fait un peu vieux quand même le jeu. En effet, il a quelques... tu sens qu'il y a 2-3 endroits où le graphisme, il manque, où tu as des problèmes de polygones, où tu vois à travers les murs. Tout ça, finalement, n'est que détail. Parce que c'est ce bord de ciel. Et c'est épique, quoi qu'on en pense, etc. On arrive dans ce jeu et c'est épique, directement. Je ne vais pas vous spoiler l'histoire de toute façon, mais...
Avant que tu ailles plus loin, parce que là je rebondis sur les graphismes, si vous le prenez sur PC, il y a tout un tas de modes qui permettent de remettre le jeu au goût du jour en termes de graphisme.
Là, en fait, c'est quand même un graphisme remasterisé de base. Mais ça n'empêche que.
Oui.
Il est joli, hein, je ne dis pas, mais il ne vaut pas quand même des dernières générations de jeux, quand même. Et puis, tu vois, il y a certains endroits, tu vois à travers les murs, tu as des polygones, tu te retrouves volant, tu as mon cheval, de temps en temps, il est en vol. Je ne suis pas le seul. Donc, toi, tu as des plans un peu rigolos, mais on ne peut pas s'arrêter à ça sur Skyrim parce que il y a ce côté vraiment épique. De où on arrive, on est la tête sur un rondin de bois prêt à être décapité. Puis finalement,
c'est vrai.
Le dragon arrive.
Le dragon arrive.
Et puis du coup, tu te retrouves livré à toi-même dans un monde.
Ah ouais, elle était bien cette intro.
Et tu fais ah ouais, d'accord, quand même. La progression, tu sais, rares sont les jeux, enfin à ma connaissance, si, c'est quand tu utilises une compétence qu'elle finit par accroître. Et au final, dès que tu as augmenté 10 fois une compétence ou plusieurs compétences, eh bien, tu changes, tu montes de niveau. Puis donc, du coup, tu peux mettre des attributs, etc. C'est en utilisant selon ce que tu veux utiliser que tu augmentes ce skill. C'est la manière de progresser est géniale. T'as des zones où voilà, tu veux pas aller chatouiller le troll, sinon il te tue directement. Il va falloir attendre quelques niveaux avant de pouvoir aller l'affronter, ce monsieur. Donc et je trouve ça vraiment bien fait dans sa progression. L'histoire, il est riche. Autant j'avais fini Oblivion et c'est vrai que je peux pas m'empêcher à chaque fois de repenser à Oblivion, les livres dans tous les sens, etc. C'est le terme, je pense, est vraiment épique. La quête que j'ai pu refaire, une quête de début de jeu, de la quête principale où voilà, on doit infiltrer une ambassade. Du coup, t'es en armée, ton épée, etc. Et puis moi, j'ai pas fait gaffe. Et puis donne à ce monsieur ce que tu veux qu'il te donne. Mais qu'est-ce que je comprends pas ? Donc j'ai passé vite. Et puis du coup, le truc d'après, je me retrouve à poil, quoi. Enfin, tu sais, on habite soirée, mais j'ai plus d'armes, j'ai plus rien, j'ai que ma magie. Heureusement, j'avais augmenté un peu ma magie. Mais je suis putain, il va falloir vraiment que je la fasse discrètement. Donc heureusement, pareil, j'avais fait quelques quêtes secondaires. Donc me voilà quand même pas mal discret, avec pas mal de magie, mais quand même pas très rassuré avec tous ces elfes à droite à gauche qui veulent ma peau. Donc voilà, et... Ces aspects de jeu vraiment complets où on peut faire ce qu'on veut, on peut intégrer la guilde des voleurs, la guilde des guerriers, parce que c'est pas le terme, mais c'est globalement ce que ça veut dire. On peut devenir un vampire si on veut, ou tuer des vampires.
Ouais, ça m'a pas mal saoulé d'ailleurs, hein, parce que pour me guérir du vampirisme,
En fait, il faut apprendre à faire les potions de guérison des maladies, en fait. Soit tu vas à un hôtel à chaque fois, soit tu te promènes avec un bon stock de potions.
Non, moi je te parle quand t'es vraiment devenu un vampire, pas juste quand t'es contaminé.
Non, moi je passais mon temps, j'essaie de pas être vampire justement, donc comme ça.
Ouais, non, mais voilà, parce que. Moi, je me suis rendu compte très tard que j'étais vampire. C'est trop tard.
Tu peux devenir loup-garou. Y a vraiment. C'est vraiment chouette par plein de d'aspects. Et ce jeu est vieux, certes. Et maintenant, même avec les nouvelles générations, eh bien, il trouve sa résonance. Enfin, en tout cas de mon côté, et je prends plaisir là depuis Noël à jouer à Skyrim, venir discrètement, avec le ne serait-ce lui, t'entends le grincement des autres, c'est quand tu sais qu'il y a des squelettes pas très loin, c'est
ouais, ah oui.
C'est
bien le squelette.
C'est ça, tu les approches, regarde, t'approches discrètement. Ouais. Au début, tu y vas un peu à la bourrin, après tu fais un peu gaffe. Tu sauvegardes tout le temps.
Surtout avant de voler.
C'est ça, avant de voler, avant d'ouvrir des portes, les pièges, etc. T'as ton compagnon, le compagnon que tu peux avoir, le nombre de fois où j'ai le compagnon depuis le début. La certaine Lydia là, parce qu'en fait à chaque fois qu'elle meurt, je repars en arrière parce que je veux pas qu'elle meure, moi je veux la garder à côté de moi. Le nombre de fois où elle est morte, tu fais mais arrête aussi d'aller déclencher les pièges. Donc voilà, c'est pas parfait, mais malgré tout voilà, c'est quand même vraiment vraiment un bon jeu au cœur. Voilà, vraiment au cœur, il y a vraiment quelque chose qui est extraordinaire dans ce jeu. Il a pas mal de défauts, bien sûr, mais finalement, on passe, on les gomme parce que c'est Skyrim. Voilà, moi je le vois comme ça. Et, donc, je ne veux pas forcément rentrer dans les détails non plus de choses, parce que bon, je pense qu'il n'y a pas la peine.
Et du coup, ton grand, il commence à s'intéresser à ça ou pas ?
Alors, je le reste à côté de moi de temps en temps, parce qu'après, il y a quand même des choses qui sont. C'est quand tu as les araignées géantes qui te sautent dessus, alors que mon grand, les araignées, c'est pas trop son truc. Donc, quand il y a les araignées géantes dans le truc, j'ai pas envie de lui faire faire des cauchemars. Donc j'essaie de pas trop, de faire en sorte qu'il regarde pas trop les moments un peu compliqués, quoi.
Ouais, où mais il y a des bêtes qui font peur en fait.
C'est ça, et c'est vraiment un jeu de genre là, ouais, par lequel j'aimerais bien l'initier. Là, donc c'est mon épouse à côté a dit, à chaque fois que je te vois jouer à Skyrim, ça me donne envie de jouer à WoW, parce que tu sais, il y a ce côté vraiment énorme, de large, de monde ouvert, de médiéval fantastique, qui fait que c'est quand même bien. Ouais, ça fait écho à Donjon et Dragon, truc de genre. Ouais, ouais. Il y a vraiment ce côté résonance à nos débuts de joueurs qui fait que c'est un peu nostalgique. J'ai envie de dire, je suis limite en train j'ai l'impression de faire du rétro gaming pendant un moment. Non, quand même pas. Mais on s'en rapproche.
Tu sais, quand nos enfants seront grands, on se retrouvera tous ensemble sur World of Warcraft.
C'est ça. Donc on peut s'en. Enfin, moi, je prends une franche rigolade à reprendre ce jeu. Que de toute façon, finalement, j'avais vraiment pas énormément avancé là en quelques, quelques heures, donc peut-être quelques dizaines, peut-être pas, mais. Ouais, je pense que j'en suis déjà à 10-15 heures de jeu, finalement, ça va vite. J'ai dépassé ce que j'avais pu avancer, j'avais vraiment fait que gratter
le contenu principal.
Ma première partie, en fait, si tu veux.
Ouais.
Donc, je prends plaisir, un grand plaisir à arpenter bord de ciel. J'essaie d'éviter mon travers d'aller chercher après chaque arbre. Mais quand on se dit que derrière chaque arbre, il y a peut-être le coffre, parce qu'on est récompensé par l'exploration, mine de rien.
Mais moi, c'est ça qui m'avait aussi en partie, avec le vampirisme, éloigné de Skyrim. C'était que c'était vraiment trop grand en termes de contenu et que j'étais frustré de ne pas pouvoir tout voir. Et donc, soit je suivais la quête principale, soit je me perdais en circonvolution dans les quêtes secondaires et que derrière le caillou, il allait y avoir la main de quelqu'un qui devait me conduire sur... Enfin, bref. Et du coup, ça me frustrait. Et c'est pour ça que moi, j'avais arrêté Skyrim.
Mais t'as moyen de te guérir du vampirisme, de toute façon.
Oui, j'ai essayé de me guérir du vampirisme. Je me suis mis tout un village à dos parce qu'il fallait que je récupère une âme humaine dans une pierre d'âme noire. Enfin, voilà. Il n'y a pas que le vampirisme, ça m'a saoulé. Mais le fait de tout ce contenu que je savais que je pouvais pas tout voir, que j'avais pas le temps de tout voir, ça m'a frustré. Et du coup, je préférais passer à autre chose plutôt que de continuer à me frustrer et passer des heures sans voir autre chose.
J'ai pris que je ne pourrais rien faire. Je ne pourrais pas tout faire parce que j'ai juste pas le temps pour tout faire. Finalement, je pars du principe que quand c'est dans la carte et qu'il y a un truc à proximité, je le fais uniquement pour pouvoir éventuellement m'y téléporter plus tard. Ça veut pas dire que je vais m'y téléporter, c'est juste que si j'ai une quête à proximité, ça me sert comme point d'ancrage. chose que je ne faisais quasiment pas quand je jouais à Oblivion. Là, j'ai fait parti pris que non, mais je ne peux pas déconner, je n'ai pas le temps, c'est pas possible. je peux pas passer mon temps sur les jeux.
Ouais, voilà, c'est ça.
Donc voilà, c'est juste ça ne marchait pas, mais voilà, ça c'est juste un parti pris. C'est dès le départ, je me suis dit bon, voilà, ça sera comme ça et pas autrement, parce que et de fait, ça me frustre pas. Ça serait bien, mais rapidement, ça fera. Ouais. Je préfère faire ça. Ça sera. Je choisis finalement. Ce que je veux faire sur ce jeu qui est immense, en effet. Et je sais d'avance que je ne ferai pas tout. Et puis finalement, c'est pas grave.
Ouais. Ok. Donc, tu as dit ça coûte une vingtaine d'euros sur le PSN.
Je l'ai pris, je l'ai eu sur le PSN en promotion. Je crois que c'était à 23$.
Ouais.
Donc
un petit peu moins, et de toute façon sur Steam, sur tout ce qu'on veut, c'est disponible sur tout ce qu'on veut, et c'est régulièrement mis en promotion. Moi, j'ai même trouvé des éditions à 5€, des éditions complètes, hein, celles dont tu parles, la Game of the Year à 5€, enfin. Ça vaut vraiment plus grand chose en période de promotion.
Après, il est ressorti, je crois, encore à plein pot sur Switch.
Ah oui, oui, oui.
C'est tu dis, Switch, les mecs, combien d'argent ils se sont fait avec ce jeu qui est sorti, je sais pas combien de temps.
Voilà, bah oui.
Mais donc, je sais pas ce qu'il vaut sur Switch. Est-ce que ça passe? Est-ce que c'est agréable? Je pense que ça doit l'être, de toute façon. Mm-hmm. Ouais, parce que la Switch, je pense quand même qu'elle est capable de faire passer le Skyrim. Mais ouais. Donc alors après, je crois que dans l'édition que j'ai eue, je dois y avoir une extension de jeu là où je peux aller sur une île via un bateau. Bon, je sais pas si ça faisait partie du jeu initial ou c'est une extension. Je crois qu'il y a plein de modes qui sont de base intégrés au jeu que j'ai via l'édition complète là. Mais bon, tout ça c'est des détails parce que je dirais c'est ça. J'ai foncé dans Bord de Ciel et on y est bien dans Bord de Ciel.
Ouais. Ok. Donc, je vous ai parlé de Last Day of June et toi, Arnaud, de Skyrim. Donc, soit vous allez être très triste, soit vous allez être épique. Une petite parenthèse pour, comme j'ai pas parlé beaucoup et qu'on a un peu de temps, j'ai pu tester, il y a eu les périodes de bêta ouverte de Dragon Ball FighterZ. Donc j'ai pu tester ça, j'ai pas fait énormément de combats, mais j'ai pris le temps de m'y intéresser un petit peu. On en avait dit beaucoup de bien, on en espérait beaucoup, on avait parlé avec toi et David, on en avait espéré beaucoup, on avait dit par avance beaucoup de bien. Eh bien, c'est vrai. tout ça est vrai.
J'ai vu ta partie. Ouais. Cela dit, j'ai vu le lien. Je t'ai vu. J'ai vu ta partie là. Et c'est vrai qu'il a l'air péchu.
Ben alors
je
voilà.
Pense que le terme, c'est dynamique.
Alors, histoire de revenir un petit peu sur mon expérience pour savoir un petit peu à quoi vous attendre. En fait, donc je n'avais que 24 heures devant moi et donc je me suis dit ne perdons pas de temps, allons-y, faisons une partie. Alors déjà, ça peut être frustrant quand on fait une partie en ligne parce que il y a plusieurs salons et les salons ne comportent que 64 personnes, donc on ne peut se mélanger qu'entre 64 gens. Et donc l'interface est pas super claire, on est dans une sorte d'arène et du coup on croise les gens et je savais pas trop où aller pour combattre, donc il m'a fallu un petit temps pour essayer de décrypter un petit peu tout ça. Et donc j'ai fait mon premier combat et là c'était franchement pas agréable mais du tout. Je me dis mais comment je fais pour faire ci, pour faire ça, j'ai pris trois personnages, j'arrive pas à changer et j'essayais les boutons et puis ça marchait pas et puis voilà. Donc le premier contact était pas super. Et après, donc...
Tu joues que contre d'autres personnes. Tu joues pas contre l'ordinateur.
Non, il y a un mode solo, il y a un mode contre l'ordinateur, mais la bêta là, qu'on avait, c'était juste jouer contre les autres en ligne. Je me balade dans ce hub en 3D, t'as ton petit personnage qui se balade et il y a tout le monde autour, et donc t'as une partie de ce hub qui est dédiée à l'entraînement, c'est-à-dire le tutoriel. Et là, je ne saurais que trop vous conseiller de faire ce tutoriel qui est divisé en plusieurs étapes pour apprendre à faire des enchaînements, pour apprendre à switcher de personnage, parce qu'il y a plusieurs façons de switcher de personnage. Il y a juste le switch tout bête, mais il y a aussi le switch en attaquant, en défense, apprendre à charger son énergie, apprendre à casser la garde, apprendre à garder, apprendre à balancer des grosses attaques. On nous explique pas tout, mais on nous explique la base. Et une fois que cette étape est passée, alors ça prend pas plus de 10 minutes, hein, grand maximum. Une fois que cette étape est passée, donc là je me suis relancé dans les combats et là j'ai vraiment pris mon pied. Là, une fois que t'as compris comment t'enchaînes les coups et que tu peux tataner ton adversaire, eh bien tu prends un grand plaisir à le faire. C'est hyper rapide, c'est hyper nerveux et moi ça m'a rappelé la bonne époque de Dragon Ball Z 2 sur Super NES où pour moi c'était le meilleur jeu Dragon Ball de tous les temps parce que je le trouvais nerveux, je le trouvais fidèle à l'animé. Avec évidemment toutes les limitations techniques de l'époque, hein, mais je trouvais ce jeu assez dingue en termes de sensations qu'il proposait et en termes de visuels qu'il proposait. Et là, j'ai retrouvé ça en fait, mais avec la technologie d'aujourd'hui, ce qui fait que, comme tu l'as vu hein, sur la vidéo que je t'ai envoyée, je t'ai envoyé une vidéo où je me suis pris deux défaites, hein, mais j'ai pris mon pied à prendre ces défaites, quoi. Non,
puis c'est ça, c'est vraiment nerveux, ça part dans tout.
Et c'est d'un fidèle.
Visuellement, c'est vraiment super joli. Ouais. Et puis c'est. Moi, ce que j'avais peur, c'est que t'es des grosses attaques et que ça bouffe genre 80% de la vie et qu'au final,
Non,
c'est t'as l'impression de prendre des immenses attaques, etc. Et ça te bouffe pas tant que ça.
Non, voilà.
Donc ça permet d'avoir des combats qui sont relativement longs.
Ouais.
Ils sont longs, avec les trois personnages.
Etc. Ouais, qui sont longs, intéressants, dans lesquels il y a des rebondissements. Et
Et un peu tactique.
Ouais, mais complètement, complètement. Et c'est d'une profondeur que tu captes très très rapidement au bout de, enfin même pendant ta première partie, tu dis ah ouais je peux faire ça, ah ouais je peux faire ça aussi. Et si je mélange ça, et tu captes tout de suite la profondeur du truc, jusqu'où ça peut aller. Alors, c'est pareil que Blizzard, hein, facile à prendre en main et difficile à maîtriser. Mais là, pour un jeu de combat et pour du Dragon Ball, enfin voilà, c'est tout ce qu'on a toujours attendu d'un jeu Dragon Ball. Et c'est bien parce qu'il coûte 60 boules que je me le prends pas, parce que sinon ça fait bien longtemps que je me le serais pris, parce que ça me fait toujours très mal au cœur de mettre 60€ dans un jeu. Donc voilà, je vais attendre qu'il baisse. Je pense qu'une fois qu'il sera à 30€, donc c'est-à-dire dans un an et demi. Je serai patient, mais
mode solo, c'est quoi, il y a du vrai contenu,
il y a du vrai contenu, c'est un arc narratif alternatif. En fait, c'est ce qui se passe dans le futur de Trunks, et donc tu as un personnage complètement inédit qui est C21, donc un nouveau cyborg. Et donc c'est, ben voilà, c'est tout ce qui se passe dans cet arc narratif dont on n'a jamais rien su, parce que il s'est pas passé, parce que celle a perdu.
D'accord.
Donc voilà. Après, j'en sais pas plus que ça. Mais voilà, c'était juste une petite parenthèse pour vous parler de Dragon Ball FighterZ. Et donc si vous avez 60€ à dépenser là-dedans, si ça vous fait pas peur, franchement, allez-y les yeux fermés, parce que c'est le Dragon Ball Z qu'on a toujours voulu. Voilà.
D'accord.
Vous nous retrouvez sur earthdis.at, vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux, là où j'adore échanger avec vous. N'hésitez pas à partager cette émission, à en dire tout le bien que vous pensez autour de vous, parce que si vous ne pouvez pas nous soutenir sur Tipeee, eh bien, faire parler de l'émission, c'est aussi un excellent moyen de nous soutenir. Je ne l'ai pas dit au moment du point sur Tipeee, mais n'oubliez pas que vous pouvez maintenant vous abonner à Shadow, et avec mon code parrain qui est BF9ST, et ça vous permet d'avoir 10€ de réduction sur votre premier mois d'abonnement Shadow, et moi ça me permet également d'avoir 10€ de réduction sur mon abonnement. C'est aussi un autre moyen de soutenir notre production. Et voilà, donc je pense que j'ai tout dit. On se dit au mois prochain. Ciao à tous et faites un bisou à vos loulous.
Ciao à tous.